Chapitre 67. Richard sauta du rebord de la fenêtre et se laissa tomber sur le sol. Comment avait-il pu passer la nuit à dormir à l'arrière du chariot, enveloppé dans une bâche? Et pourquoi Jory ne l'avait-il pas réveillé? Parce que ce n'était pas son travail, selon lui? Ou parce qu'il ignorait la présence d'un passager dans son véhicule? Richard s'époussa et regarda autour de lui. Il était devant l'entrepôt de la compagnie de transport, là où il avait obtenu son premier emploi en arrivant à Alterrang. Épuisé, il y avait passé la nuit sans même le savoir. Et maintenant, où devait-il aller? Chez lui ou sur le chantier? Le soleil était déjà haut. S'il rentrait à la maison, il serait en retard au travail, donc la réponse était simple. Mais de quel travail parlait-il? On était le jour de l'inauguration? Quand le frère Narev aurait vu la statue, Richard n'aurait plus de soucis à se faire pour son poste de sculpteur. S'il tentait de s'enfuir, Nietzsche serait furieuse et Callan en subirait les conséquences. Après un an passé aux côtés de la sœur de l'obscurité, il ne doutait pas qu'elle mettrait ses menaces à exécution. Le sourcier était piégé. Au moins, il allait avoir le plaisir de voir la tête que ferait Victor quand il découvrirait la statue. Sans doute le seul moment agréable de la terrible journée qui s'annonçait. Richard la terminerait sans doute dans le trou à rats puants où on l'avait déjà incarcéré. À cette idée, il faillit se prendre les pieds dans des cailloux. Il refusait de retourner dans cette cellule minuscule. Les endroits exigus lui déplaisaient, surtout quand il y était piégé. Que son avenir lui semble agréable ou pas, il avait sculpté la statue en toute connaissance de cause et en sachant le prix à payer. Le résultat valait la peine. L'esclavage n'était pas tolérable à long terme, et s'il mourait, Nietzsche avait promis de laisser Callan en paix puisqu'elle aurait obtenu la réponse à sa mystérieuse question. Pouvait-on se fier à la parole de la sœur de l'obscurité? Il n'en savait rien et il devrait faire avec. La statue existait, et c'était l'essentiel. La vie existait, et les habitants de l'ancien monde avaient besoin de la voir et de découvrir qu'elle méritait d'être vécue. Pour une heure si matinale, les rues d'Alterrang grouillaient d'activité. Des patrouilles de garde allaient et venaient partout. Avec la foule d'étrangers venus assister à l'inauguration, tout le monde devait être un peu nerveux. Pour l'instant, les soldats ne prêtaient aucune attention à Richard, mais ça changerait bientôt. Quand il fut en vue du chantier, le sourcier n'en crut pas ses yeux. L'esplanade et les alentours du fief étaient noirs de monde. Cette foule bigarrée semblait tellement étrange dans un endroit d'habitude désert. Jusque-là, Richard n'avait jamais imaginé que la cérémonie se déroulerait devant autant de spectateurs. Mais il avait travaillé jour et nuit pendant des mois, se coupant de la réalité. Par des chemins détournés, mais plus dégagés, il réussit à rejoindre assez rapidement la route qui menait à l'atelier de Victor. Il voulait montrer la statue à son ami avant l'arrivée des frères et des responsables de l'ordre, car après, il lui resterait très peu de temps. Les hommes, les femmes et les enfants que Richard croisa en chemin lui semblèrent inhabituellement joyeux pour des habitants de l'ancien monde. Sans doute parce qu'une fête, même comme celle-là, leur faisait oublier un peu leur tracas quotidien. Alors qu'il était à mi-chemin de l'atelier, le frère Neil, les yeux fous, se campa devant lui et le désigna d'un index vengeur.
« C'est lui! Capturez-le !»
Des gardes jaillirent de partout et encerclèrent leur proie. D'instinct, Richard se prépara à un combat. Ses ennemis n'étant pas si nombreux que ça, il aurait une bonne chance de vaincre s'il parvenait à subtiliser son épée au premier qui l'attaquerait. Oui, ça paraissait jouable. Ensuite, il resterait le problème de Neil. Mais vaincre ce sorcier sans grand talent ne lui semblait pas un exploit trop difficile, surtout avec la rage qu'il sentait monter en lui, celle-là même que l'épée de vérité décuplait pour le transformer en messager de la mort. Mais s'il utilisait son pouvoir, cela signerait l'arrêt de mort de Callan. Nietzsche le lui avait dit, et là non plus ce n'étaient pas des paroles en l'air. Saurait-elle qu'il lui avait désobéi? Tôt ou tard, ce serait inévitable. Richard baissa les bras et se laissa ceinturer par une demi-douzaine de gardes. Au fond, plus rien n'importait. S'il résistait, Callan en souffrirait. En revanche, après sa mort, Nietzsche la laisserait tranquille. Mais il ne retournerait pas dans les geôles de l'ordre.
« Que croyais-tu faire, Cypher ?»
cria le frère Neil hors de lui. Il se campa devant le prisonnier.
« Tu as voulu jouer au plus malin, c'est ça ?
Puis-je savoir de quoi vous parlez, frère Neil?
De la statue.
Dois-je conclure qu'elle n'est pas à votre goût? Neil gifla Richard à la volée. Sous les ricanements des gardes, le sourcier, qui avait pourtant prévu le coup et durci ses muscles, en eut le souffle coupé. Content du résultat, Neil frappa une seconde fois.
« Tu paieras cher ce blasphème, Cypher. Cette fois, n'espère pas t'en tirer par miracle. Tu avoueras tous tes crimes avant de mourir. Mais d'abord, tu assisteras à la destruction de ta perverse création. Garde, conduisez-le sur l'esplanade, et ne prenez pas de gants pour vous frayer un chemin dans la foule. »
Au milieu de la matinée, Callan cessa d'espérer que le forgeron se montre enfin.
« Je suis désolé, » dit Camille Penaud. « Je ne sais pas où est Victor. Il devrait venir, mais... »
Callan cessa de faire les 100 pas et tapota gentiment l'épaule du jeune homme. « Ne te tracasse pas, Camille. Avec l'inauguration et ce qui s'est passé autour de la statue, ce n'est pas une journée habituelle. »«
Oh, regardez !»
lança soudain Kara.
« Des gardes armés de lance dispersent la foule sur l'esplanade. »
Callan plissa les yeux en vain.
« Ta vue est meilleure que la mienne. Moi, je n'aperçois rien. Mais de toute façon, rester ici est une perte de temps. Essayons d'aller voir ce qui se passe. Mais surtout, Kara, ne nous entraîne pas dans une bataille rangée contre cette foule. »
La mort de Sith eut une moue agacée.
« Camille, » continua Callan, « tu veux bien faire quelque chose pour moi ?»«
Évidemment, de quoi s'agit-il ? »
Il faudrait que tu attendes ici au cas où Richard viendrait. Voir le forgeron s'il finit par arriver.
Camille tendit le cou pour sonder l'esplanade en contrebas.
D'accord. Si Richard monte ici, je lui dirai que vous êtes là. Vous avez un message à lui transmettre?
Oui, que je l'aime, pensa Callan avec un petit sourire.
Dis-lui que nous sommes en bas en train de le chercher. Qu'il ne bouge pas surtout et attende notre retour. Sinon, nous risquons de passer des semaines à nous croiser.
Avec la foule qui se pressait partout, rejoindre l'esplanade se révéla plus difficile encore que la veille. Dans la bousculade, l'inquisitrice craignit plusieurs fois d'être séparée de la mort de Sith. Coincées dans la marée humaine, les deux femmes comprirent qu'il ne leur restait plus qu'une solution, se laisser docilement entraîner. Autour d'elles, toutes les conversations tournaient autour d'un seul sujet, la statue. En fin d'après-midi et après des heures à piétiner sur place, Nietzsche était parvenue au bord de l'esplanade. Depuis qu'elle n'avançait plus d'un pouce, prisonnière de la foule, elle réussissait à peine à bouger les bras, et dans ces conditions, elle en avait conscience, une chute malencontreuse pouvait avoir des conséquences fatales. Si elle avait au moins pu recourir à son pouvoir. Elle s'en était privée par pure arrogance, sans mesurer ce que ça impliquait. En échange, elle avait reçu un cadeau inespéré, la vie. Mais cela avait coûté leur liberté à Richard et Callan. Si Nietzsche se retirait du lien, brisant le sort de maternité, elle récupérerait sa magie. Mais l'inquisitrice cesserait de vivre dans la seconde même. Naguère, cette idée ne l'aurait pas gênée. Aujourd'hui, elle refusait de prendre une vie pour préserver la sienne, car elle avait compris que c'était cela le mal absolu. Jusque-là, elle n'avait pas trouvé Richard, et pas davantage Maître Kaskel à Ishak. Dès qu'elle reverrait son ancien prisonnier, elle lui dirait qu'elle avait enfin tout compris, puis il quitterait Alterang. Elle brûlait d'impatience de voir la réaction de Richard quand il saurait qu'elle voulait la ramener à Callan et neutraliser le sort de maternité. Mais ça n'était que justice. Les deux époux ne devaient pas souffrir à cause de ce qu'elle avait mis si longtemps à apprendre parce qu'elle s'était aveuglée. En désespoir de cause, Nietzsche avait décidé de voir si Richard était sur l'esplanade. À présent, coincée dans la foule, elle ne parvenait pas à atteindre son objectif, et rebrousser chemin était tout simplement hors de question si elle ne voulait pas se faire piétiner. Se dressant sur la pointe des pieds, elle parvint à voir que le frère Narev et ses disciples venaient d'entrer sur l'esplanade. Derrière eux se pressaient les centaines de fonctionnaires et de dignitaires venus assister à l'inauguration. Avec son pouvoir, Nietzsche aurait pu les tuer tous en un clin d'œil. Derrière les spectateurs de haut rang, Nietzsche aperçut soudain Richard, entouré par des gardes armés jusqu'aux dents. En fait, les soldats avaient chassé les gens du centre de l'esplanade et ils tenaient à présent la position arme au poing. Le frère Narev se campa devant la foule et la balaya du regard. Son apparition n'imposant pas tout de suite le silence, Le guide spirituel de l'ordre parut fort mécontent. Mais de toute façon, il n'avait jamais l'air satisfait parce que éprouver le moindre plaisir à ses yeux était le premier pas vers la damnation. Il leva les bras pour demander à la foule de se taire. Quand elle lui eut obéi, il prit la parole. Nietzsche frissonna en entendant l'horrible voix qui la hantait depuis ce premier soir chez les amis de sa mère. Une voix comme celle de la femme d'Howard qui s'était insinuée dans sa tête pour l'empêcher de penser et le faire à sa place. Se pardonnerait-elle jamais de ne pas avoir résisté, quitte à y perdre la vie?
« Chers citoyens de l'ordre impérial, » dit Narev, « aujourd'hui nous allons vous offrir un spectacle extraordinaire. Pour commencer, vous verrez de vos yeux la tentation. »
Il tendit une main vers la statue.
« Regardez cette criante illustration du mal. Oui, regardez-la. »
Des murmures nerveux coururent dans la foule. Le frère Narev eut un sourire qui dévoila ses dents et lui creusa les joues. « Le rictus d'une tête de mort, » pensa Nietzsche, les sangs glacés. Narev avait volontairement attendu le coucher du soleil pour commencer la cérémonie. Dans la pénombre et devant des gens fatigués par une journée passée debout dans le froid, tous ses effets de manche et de verbe gagnaient en force et en impact. Bientôt la lune se lèverait, ajoutant sa lumière spectrale à une atmosphère déjà sinistre, en tout cas depuis l'arrivée du frère, de ses disciples, des gardes et des prétendus protecteurs du peuple de l'ordre.
« Citoyens, » continua Narev, « ce soir, vous serez témoins de ce qui arrive au mal quand il ose affronter en face les forces bienfaisantes de l'ordre impérial. »
Il tendit un index squelettique faisant signe à quelqu'un derrière les rangs de dignitaires. Aussitôt, des gardes poussèrent Richard en avant. Nietzsche en cria d'horreur, mais sa voix fut noyée par celle de milliers d'autres personnes. Le frère Neil avança, une énorme masse entre les mains. Nietzsche fit du regard le tour de l'esplanade et constata que des milliers de gardes formaient un cordon protecteur tout autour des officiels. Narev n'avait pris aucun risque, comme à son habitude. S'inclinant devant son chef, Neil lui tendit la masse puis lui sourit mielleusement. Le guide spirituel de l'ordre leva l'outil au-dessus de sa tête, comme s'il s'agissait du glaive de la justice.
« Où qu'il soit, le mal doit être détruit !»
Narev braqua la tête de la masse vers la statue.
« Regardez cette œuvre maléfique, née des mains d'un subversif qui déteste ses semblables et entend humilier les faibles. Ce parasite ne contribue en rien au progrès de l'humanité. » Il ne se soucie pas de l'aider et encore moins de participer à son édification. Tout au contraire, il produit des images perverses afin d'inciter au péché les plus faibles et les plus vulnérables d'entre vous.
La foule se taisait, accablée par la déception. D'après ce que Nietzsche avait entendu au cours de la journée, beaucoup de gens avaient cru que la statue était un cadeau de l'ordre destiné à remercier le peuple de ses efforts. Une splendeur que chacun pourrait contempler devant le palais de l'empereur en pensant à l'avenir radieux qui attendait l'humanité. Le discours de Narev dissipait leurs illusions, et ils en étaient abattus. Le maître à penser de l'ordre leva sa masse.
« Avant que le criminel soit pendu pour avoir comploté contre l'ordre, il assistera à la destruction de son ignoble création. » Et entendra les cris de joie des citoyens vertueux, ravis de voir disparaître à jamais cette insulte lancée à la face du Créateur. »
Alors que le soleil sombrait à l'horizon, Narev se campa devant la statue et abattit sa masse sur la jambe du personnage féminin. Au moment de l'impact, un cri d'angoisse monta de milliers de gorges, mais le coup avait à peine fait sauter quelques fragments de marbre. Quand le silence fut revenu, Richard éclata de rire, raillant ouvertement la piteuse prestation de Narev. Bien qu'elle fût très loin, Nietzsche vit que le frère s'était empourpré de rage. Dans la foule, les citoyens murmuraient, stupéfaits que quelqu'un ait osé rire au nez d'un des frères de l'ordre et plus encore de leur chef. Narev lui-même n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Les gardes qui surveillaient Richard en étaient bouche bée. Quand l'écho du rire du sourcier eut fini de se répercuter sur l'esplanade, Narev prit la masse par la tête, approcha du prisonnier et lui tendit l'outil.
« Détruis toi-même ta création impie !»
ordonna-t-il. Il ne précisa pas que Richard, s'il refusait, serait exécuté sur le champ, mais tout le monde le devina. Richard saisit le manche de l'outil avec autant de respect que s'il s'était agi de la garde incrustée de joyaux d'une épée. Avançant vers la foule, le sourcier la regarda un moment en silence. Discrètement, Narev fit signe aux gardes de ne pas le cribler de lance. Comme Neil, son bras droit, il était certain que les citoyens de l'ordre n'accorderaient aucune attention à la parole d'un pêcheur.
« Vous êtes dirigé par des hommes mesquins et cruels !»
lança le sourcier d'une voix puissante qui atteignit jusqu'au dernier rang de spectateurs. Des cris montèrent de la foule. Mais dire des frères était au minimum une trahison et plus vraisemblablement une hérésie.
« Quel crime ai-je commis ?»
demanda Richard.
« Vous proposez une belle œuvre d'art, en postulant que vous avez le droit de l'admirer si cela vous chante ? Puis encore, j'ai osé affirmer que vos vies vous appartenaient. Le mal, mes amis, n'est pas une seule et puissante entité, mais la somme des petites dépravations que se permettent des hommes indignes de porter ce nom. Sous le règne de l'ordre, vous avez renoncé à la lumière pour végéter dans le brouillard grisâtre de la médiocrité. Renonçant à vous épanouir, vous acceptez une décadence inexorable qui conduit à la mort de l'intelligence. Devenu apathique, vous n'osez plus prendre des initiatives, car tous les territoires inconnus vous effraient. »
À présent, la foule écoutait, suspendue aux lèvres de Richard. Maniant la masse comme une épée, il la fit tournoyer au-dessus de sa tête.
« Vous avez jeté aux orties la liberté en échange d'un bol de soupe. Que dis-je ? C'est bien plus grave que ça. En échange de la promesse d'un bol de soupe que quelqu'un d'autre est censé vous fournir. Le bonheur, la joie, la plénitude, l'ivresse de l'effort ne sont pas un gâteau qu'on peut découper en tranches égales. Peut-on se partager équitablement le rire d'un enfant ? Non, mais on peut lui donner des raisons de rire plus souvent. »
Cette image plut beaucoup à la foule qui la ponctua de joyeux gloussements.
« Nous t'avons assez entendu !»
cria le frère Narev, furieux.
« Détruis sans plus tarder ta monstrueuse statue !»«
Dois-je comprendre que les frères et les responsables de l'ordre redoutent ce que pourrait dire un individu sans importance ? Les mots vous inquiètent tant que ça, frère Narev ?»
Les yeux noirs du frère sondèrent rapidement la foule qui paraissait fascinée par ce dialogue.
« Aucune parole ne nous effraie. La vertu est de notre côté, et elle nous aide à triompher du mal. Continue à divaguer ainsi, tout le monde comprendra pourquoi un authentique enfant du Créateur ne saurait prendre ton parti. »
Richard sourit à la foule, mais il ne tenta pas le moins du monde d'édulcorer ses propos.
« Chaque individu est propriétaire de sa vie. » Si elle appartient à la société ou à un quelconque régime, il devient tout simplement un esclave. Nul n'a le droit de priver quelqu'un de sa liberté, ni de réquisitionner les biens qu'il produit, parce que cela revient à le priver de ce qui lui permet de subsister. Plaquer un couteau sous la gorge d'un être humain pour le forcer à vivre d'une certaine manière est une trahison. Aucune société n'est plus importante que les individus qui la composent. Sinon, on crée une abstraction qui justifie les guerres et les massacres. Les lois doivent être fondées sur la raison et une saine vision de la réalité. Quand on la laisse prendre le dessus, la foi aveugle est un fléau. Vous détourner de l'intelligence et croire aux mensonges de vos chefs leur permet de vous réduire en esclavage et de vous assassiner. Vous avez le pouvoir de prendre en charge votre vie. Si vous le décidez, les dirigeants que vous voyez devant vous n'auront pas plus de valeur que des cancrelats. À part celui que vous leur concédez, ils n'ont aucun pouvoir sur vous.
Du bout de sa masse, Richard désigna la statue.
« Voici la vie, celle qui pourrait être la vôtre. »
Il pointa la tête de l'outil vers les statues.
« Et voilà ce que vous offre l'ordre, la mort. »«
Assez de blasphème !»
explosa le frère Narev.
« Détruis cette statue, si tu ne veux pas mourir dans la seconde qui suit. »
Les gardes levèrent leurs lances. Richard les toisa du regard, puis approcha de la statue. Nietzsche sentit son cœur battre la chamade. Il ne fallait pas que cette œuvre disparaisse. L'ordre n'avait pas le droit de voler la beauté aux gens. Richard posa la tête de la masse sur son épaule, tendit sa main libre vers la statue et parla une dernière fois à la foule.
« Regardez ce que l'ordre vous dérobe. Votre humanité, votre personnalité et la liberté de vivre comme vous l'entendez. »
Comme s'il s'agissait de l'épée de vérité, il se toucha le front avec la tête en acier de la masse. Puis il abattit l'outil sur le socle de la statue. Nietzsche entendit la pierre se craqueler de l'intérieur, comme si elle poussait de petits cris de douleur. Puis la statue explosa en un tourbillon de fragments et de poussière blanche. Les frères, les dignitaires et les gardes se réjouirent bruyamment devant ce spectacle, mais ils étaient bien les seuls. Les citoyens, silencieux comme à des funérailles, regardaient leurs espoirs disparaître et des larmes perlaient à leurs paupières. La gorge serrée, Nietzsche, comme tous les autres, avait le sentiment qu'on venait de tuer un innocent devant ses yeux. Lance levée, les gardes poussèrent Richard vers d'autres soldats qui le couvriraient bientôt de chaînes.
« Non, nous n'acceptons pas ça !»
cria une voix dans la foule. Malgré la pénombre, Nietzsche reconnut l'homme qui avait lancé ce défi et jouait à présent des coudes pour se frayer un passage jusqu'au premier rang. C'était Maître Casquella, le forgeron.
« Nous n'accepterons pas ça !»
répéta-t-il.
« Je refuse de rester un esclave, vous m'entendez? Je suis un homme libre, oui, un homme libre !»
Des milliers de gorges reprirent cette affirmation. Puis, la foule chargea. Des gardes voulurent s'interposer, mais ils furent submergés par le nombre. Nietzsche cria sans casser les cordes vocales afin d'attirer l'attention de Richard, mais dans ce vacarme, c'était peine perdue.